Plan large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
Plan large, l'encyclopédie vivante du cinéma. Aujourd'hui, c'est comme Cavalier. Alain Cavalier, le filmeur, avec Natacha Thierry et Charlotte Garçon. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan Large. Liberame, le titre d'un de ses films les plus radicaux en 1993, peut résumer à lui seul le parcours qui est celui d'Alain Cavalier depuis plus de 60 ans, comme une prière qui aurait été exaucée en passant de la fiction au documentaire. Libère-moi des artifices du cinéma, de la lourdeur de son dispositif technique et financier, des clichés de sa narration et de son langage éculé. Ce cheminement artistique, pour ne pas dire spirituel, voire mystique, vers une pauvreté assumée, vers un cinéma de la 16 quotidienne, au plus près de l'expérience, à portée de main, qui consiste à filmer seul tous les jours et à en faire des films qui sont autant de collections de visages, de gestes et d'objets qu'il préserve pour conjurer leur disparition. Cette transmutation radicale par dépouillement et féconde soustraction du cinéaste en filmeur, l'invention joyeuse et grave de ce cinéma stylisé et épuré qui nous regarde dans tous les sens du terme, c'est ce que nous allons raconter. Compté aujourd'hui dans Plan Large, titre paradoxal d'émission, doit-on confesser, concernant un homme qui n'aime rien tant que les gros plans. En quelques stations, de la chamade à Irène, en passant bien sûr par Thérèse, son plus grand succès. Le tout à l'occasion d'une rétrospective croisée, Alain Cavalier, Ross McElwee, autoportrait, que propose la cinémathèque du documentaire à la BPI du Centre Pompidou. Avec nous pour évoquer cette odyssée qui a parfois été un chemin de croix, de cavalières émérites et passionnées que nous avions précédemment rassemblé pour un plan large consacré à Ernst Lubitsch, Natacha Thierry, qui écrit actuellement un livre sur le cinéaste qu'on attend avec impatience, et Charlotte Garçon. Charlotte Garçon qui, en fin d'émission, évoquera à l'occasion de la parution de ses mémoires agrémentées de plusieurs films rares en DVD, un cinéaste un rien oublié aujourd'hui, alors qu'il fut avec Marcel L'Herbier et Abel Gance un des plus féconds du cinéma muet français, Henri Diamant Berger. Mais pour l'heure, on retourne il y a 50 ans en 1968, quelque part dans Paris.
C'est belle bouche qui croque des chips. Avec Dieu la jolie dame, cette belle bouche qui croque des chips, cette belle bouche qui croque des chips.
Ah, oh, mais voilà Diane. Oh, Diane. Bonsoir, ma chérie. Comment ça va?
Bonsoir.
Bonsoir, vous allez bien?
Très bien.
Bonsoir.
Oh, vous pique-niquez. Quelle bonne idée.
Bonsoir.
Oh, à la campagne.
Antoine, mon chéri, je n'ai plus de cigarette.
Cette belle bouche qui croque des chips, c'est celle de Catherine Deneuve. Autour d'elle, devant le théâtre de l'Atelier, place Charles Dullin à Paris. On reconnaît les voix de Michel Piccoli, qui joue son amant, sans doute moins celle de Roger Van Hall, qui joue son futur amant, Antoine, et celle d'Irene Tunk, qui joue la maîtresse de ce dernier. C'était alors la femme d'Alain Cavalier, Irène, et nous allons être amenés à reparler d'elle tout au long de cette émission. C'est La Chamade, d'après un roman de Françoise Sagan, né en 1968. Le film a été tourné pendant les événements de mai 68. Jean-François Stévenin, qui était assistant réalisateur sur le tournage, nous l'avait raconté récemment dans Plan Large. Et Nolens Volens, quelque chose de l'air du temps passe dans ce film. Natacha Thierry, c'est l'histoire d'une femme qui va éprouver sa liberté d'aimer, de choisir, mais qui, comme le pays tout entier en mai 68, après le choix de l'aventure, va faire le choix du retour à l'ordre. Natacha Thierry.
Oui, alors c'est effectivement un film qui est traversé par 68, littéralement. Hein. Après 4 semaines de tournage, les événements interrompent le processus de tournage. L'équipe vote la grève et va manifester. Et c'est donc ensuite, au bout de 4 semaines d'interruption, que le tournage reprend. Et c'est très intéressant parce que c'est précisément le film qui marque un basculement dans la conception de Cavalier, du cinéma tel qu'il veut le pratiquer.
Il faut dire qu'à ce stade, Alain Cavalier est quelqu'un qui réalise des films ambitieux, politiques, qui ont des problèmes souvent avec la censure, mais qui filme des stars. Oui. C'est-à-dire, il va filmer Romy Schneider, il va filmer Alain Delon, et dans le cas ici, Catherine Deneuve. Donc, il y a eu Le Combat dans l'île, il y a eu L'Insoumis, notamment avant.
Oui, oui, tout à fait. Et donc là, il a raconté plusieurs fois comment il a eu une sorte de révélation un jour pendant le tournage devant ces magnifiques acteurs qui étaient Catherine Deneuve, Michel Piccoli, la révélation que ce n'était plus le cinéma qu'il voulait faire, ce n'était plus les visages trop apprêtés, maquillés qu'il voulait filmé, enregistré, et donc c'est vraiment le film qui marque la fin de cette première époque. Pour autant, ce n'est pas parce qu'il a il est allé dans une autre direction que ces films-là sont à rejeter ou sont insignifiants, absolument pas. Tous ces films sont absolument magnifiques pour des raisons différentes. Et c'est intéressant aussi de voir comment le roman de Sagan et le contexte de 68 se rencontrent et s'interpénètrent à travers le film. C'est intéressant comme le personnage de Catherine Deneuve, Lucille, en effet, en quittant l'homme qui l'entretenait, Michel Piccoli, qui l'entretenait certes, mais qui aussi l'aimait profondément et vraiment, apprend une autonomie économique, se heurte à la difficulté du travail, en arrive à avoir des revendications aussi, et éprouve une sorte d'aliénation, y compris amoureuse d'ailleurs, car son amant, qui est certes plus jeune, Antoine, que le personnage interprété par Michel Piccoli. Son amant est en fait très conservateur. Ce dont il rêve, c'est d'avoir une femme au foyer. Hein. Et donc, certes, il y a une relation passionnelle et charnelle entre eux, mais en termes de vie de couple, ça n'est pas ce dont tout le monde peut rêver.
Alors, il existe une sorte de réduction de ce film, Charlotte Garçon, qui s'appelle Elle, elle seule, qu'Alain Cavalier a remonté donc en 2011, où il ne garde que des plans sur Catherine Deneuve seule dans le film. Donc ça a une sorte d'accélération étonnante de ce film, mais qui montre aussi le regard déjà d'Alain Cavalier, même s'il déplorera les artifices, le maquillage, etc., mais sur la figure humaine, sur la figure notamment de l'acteur. Il y a cette anecdote célèbre aussi d'Alain Delon demandant à Alain Cavalier pendant le tournage de L'Insoumis entre les prises, mais pourquoi tu me regardes comme ça? Et Alain Cavalier lui répond, parce que je suis payé pour ça. Il y a quand même quelque chose déjà de très singulier dans le regard d'Alain Cavalier, Charlotte Garçon.
Oui, et puis réduire alors des dizaines d'années après un film au plan sur l'actrice, il me semble que c'est aussi avouer en fait pourquoi on fait du cinéma, c'est-à-dire que finalement poser son regard sur une femme, ce qui paraît évident pour certains cinéastes, qu'ils soient hollywoodiens, qu'ils soient ceux de la nouvelle vague, voilà, Godard, enfin tous ces propos sur les femmes de plus de 25 ans comme étant beaucoup moins intéressantes à filmer, etc. Pour Cavalier, ça n'est pas une évidence, je dirais moralement. Il lui faut peut-être des années pour dévoiler le fait que filmer un visage féminin, c'est fondamentalement un geste, enfin très très, c'est un geste très profond, une pulsion, disons, de cinéma très profond, et qu'au début, il y a toute la production autour. Il y a une histoire, il y a un récit, il y a de la psychologie, etc. Et en 2011, finalement, il y a une actrice au travail, ou tout simplement un visage féminin sous certains aspects. Quand on voit aujourd'hui, par exemple, les essais d'une partie de campagne de Jean Renoir dont on dispose, ce film des années 30, on voit une actrice sous le regard d'un cinéaste, c'est très dépouillé. Alors c'est à cela que fait penser cette espèce d'étrange court-métrage
C'est à cela que va, en tout cas, essayer de tendre Cavalier. On va parler de ce parcours. En tout cas, vous l'avez dit, Natacha Thierry, avec La Chamade, c'est comme un premier cycle de vie hein, qui se clôt pour Alain Cavalier. Il est au fait de sa carrière, mais il ressent le besoin de faire autrement. Il s'arrête. Il faudra attendre 8 ans pour reprendre de ses nouvelles.
Le lendemain, j'ai commencé à avoir des écoulements, alors je me suis dit que c'était ça. Tu vois, c'est les muqueuses. Comme elles sont irritées, ouais. elles sont moins sensibles.
Ouais. Moi, j'étais à Lille, j'avais à tout casser 19 ans, et je vois une tache bleue sur mon truc. Ouais. Alors, je fonce à l'hosto, l'infirmière me gratte avec de la gaze, elle me dit « Syphilis, montez au 5e, 14 mois de traitement, cyanure et pénicilline. » T'imagines ?
Des marteaux, moi, ouais. Quand j'avais ton âge, 6 philos, dis donc, ça durait 7 piges. Le mec, il était nasse pour la vie. 7 ans sans tirer un coup, tu vois ?
T'es resté 14 mois sans baiser.
Ah non, après 15 jours, tu peux.
Moi, j'ai eu du pot, je me suis juste pété la craquette avec Marie. Mmh. Je pissais le sang, j'ai cru qu'elle avait ses règles. Ce qui s'est passé, en réalité, j'avais le tendon coupé. J'avais du sang plein les draps.
Moi, ça n'a rien à voir, c'est très personnel. Je préfère pas en parler, c'est très spécial, enfin, ça m'emmerde.
Pas du genre qui rote, toi, hein?
Je rote, mais quand ça m'arrive, je ne sais pas pourquoi j'ai la chance de mettre ta main devant ma bouche.
Oui, et quand tu pètes, tu mets ta main devant ton cul.
Plaisanterie éculée, grossièreté facile, débitée sur un ton satisfait, écrit Michel Morte dans le Figaro à la sortie du film. Et oui, mais quand on est entre garçons, de quoi est-ce qu'on parle? L'histoire de garçons, bien entendu. Bernard Crombet, Xavier Saint-Macary, Étienne Chicot, récemment disparu, et Patrick Bouchité, c'est le plein de super en 1976. Alors, avec La Chamade et la mort accidentelle de sa femme Irène Tunck dans un accident de voiture, c'était en 1971. Avec qui il avait déjà un projet de film intimiste en chambre, on va sans doute en reparler. Alain Cavalier a perdu le goût de filmer, il va dire « je ne savais plus qui ou quoi filmer, j'avais envie d'autre chose, alors j'ai attendu ». Et qu'est-ce qu'il a attendu? Il a attendu une rencontre. Une rencontre avec 4 jeunes comédiens qui ont 25 ans à l'époque, lui il en a 20 de plus, 4 comédiens qui lui sauvent la vie, dit-il, un mélange d'extrême vulgarité et d'infinie délicatesse, c'était exactement ce dont j'avais besoin, Natacha Thierry.
Oui, c'est ça. En effet, il revient au cinéma par cette rencontre. Ce qui est très beau, c'est que ils coécrivent tous les 5, donc les 4 comédiens et lui, ils coécrivent le film ensemble. Ce sont leurs mots, ce sont leurs dialogues et d'ailleurs.
Ça a l'air très improvisé, mais en fait, c'est extrêmement écrit.
Oui, c'est très écrit et vraiment affleure à chaque fois la personnalité de chacun de ces acteurs et ils ont non seulement donc cette coécriture, mais un traitement égal, c'est-à-dire un salaire égal. Et là, quelque chose aussi commence à se nouer dans le travail de Cavalier, qui a à voir avec ce qu'il a appelé, à certaines occasions, avec une pointe d'humour, son communisme dans le travail. Hein. Donc voilà, cette égalité de traitement. Et alors, moi, il me semble que le critique du Figaro exagère un tout petit peu, c'est-à-dire que certes, il y a une dimension potache dans le film et dans la scène que nous avons entendue, mais il me semble malgré tout qu'il est assez rare au cinéma d'entendre des hommes qui évoquent non pas leur performance sexuelle, mais leur fragilité, leur fêlure. C'est quand même un film extrêmement profond sur cette question-là, sur des hommes qui sont dans une sorte d'inquiétude dans leur relation amoureuse, sentimentale, sexuelle, sur le fait de procréer ou non, et comment, puisque l'un d'eux, celui qui... Bernard Crombet, qui est d'ailleurs une figure très importante dans le parcours de Cavalier.
Et qui sera un des portraits XL récemment,
absolument,
récemment distribué en salle.
Oui, c'est un des portraits XL, mais c'est aussi, par exemple, celui qui a produit Libérame. Et c'est vraiment un compagnon de route et un complice de Cavalier. Donc, certes, il y a une dimension potache, mais quand même aussi une vraie profondeur dans ce film.
Mais ceci dit, Charlotte Garçon, pour ceux qui n'auraient d'Alain Cavalier que l'image du cinéaste de Thérèse, de l'épure et du côté presque mystique, enfin on va en reparler tout à l'heure, il y a tout de même un goût du trivial, de la crudité chez Cavalier qui va traverser toute sa filmographie et qui en fait aussi le sel, Charlotte Garçon.
Oui, moi je suis contente que vous ayez choisi cet extrait pour le côté très organique, effectivement. qui se retrouvent, y compris d'ailleurs dans Thérèse où il y a une scène de crachat tuberculeux, voilà, qui est, il y a pas d'opposition entre l'aspect mystique, enfin quelque chose de sacré, de tension vers un sacré et l'extrême trivialité. Et c'est une comédie quand même très très réussie. Parmi les comédies des années 70, je crois que c'est un sommet, Le Plein de Super. Il faut vraiment le voir. Il conserve une force comique, effectivement, parce qu'il s'attaque au mythe de la virilité, voilà, qui c'est encore aujourd'hui un ressort comique, cette histoire de qu'est-ce que c'est qu'être un homme. Et
les Américains l'ont bien compris.
Oui, et c'est extrêmement réussi. Et puis c'est aussi un road movie, dans une voiture pas possible, que justement Bernard Combet, qui s'appelle Clouc, doit descendre pour quelques sous, en fait. Tout ça, c'est aussi économiquement très... donc l'aspect road movie est fort aussi, techniquement, parce que il pousse Alain Cavalier à inventer des choses, à se mettre plié en quatre dans l'habitacle de la voiture. Donc on voit bien qu'il prend aussi des risques physiques. Enfin, il expérimente techniquement pour ce film. C'est extrêmement réussi.
Et c'est aussi une seconde période, hein, dans l'art d'Alain Cavalier. C'est celui de ne plus tant filmer des personnages que des personnes. Et quand vous l'avez dit, inviter les personnages les acteurs, en tout cas, à coécrire le film avec lui, c'est cette direction-là. C'est ce qu'il refera avec Martin et Léa en 1978, avec encore Xavier Saint-Macary, qu'on a entendu, parmi les quatre garçons, et sa femme Isabelle Haut. C'est ce qu'il fera aussi en faisant Un étrange voyage avec Jean Rochefort, en sorte d'alter ego du cinéaste, et puis la propre fille de Cavalier, Camille de Casabianca. Qu'est-ce qu'il cherche à ce moment-là? C'est l'interpénétration du cinéma et de la vie. C'est déjà quelque chose qui va aller vers...
Oui. Et c'est aussi filmer ce qu'il a appelé des corps innocents, par opposition au corps glorieux des acteurs que nous évoquions au début. Donc des corps innocents qui n'ont pas encore été séduits par la caméra et qui réciproquement ne cherchent pas à la séduire. Donc pour avoir une manière beaucoup plus immédiate et directe d'approcher les visages, probablement aussi pour que le spectateur ait un regard vierge et ne voit pas avec un acteur tout ce qu'il charrie d'avant, de sa carrière d'avant. Donc il y a cette recherche d'innocence, d'authenticité, de vérité des visages et des corps, qui, évidemment, est articulé à une économie bien différente, une économie beaucoup plus modeste. Voilà.
Après le dîner, elle prépare sa tisane à la cuisine. Elle perd l'équilibre et se cogne, juste sous l'œil, contre l'évier. Énorme cocard violet. Elle est désespérée. Pour elle, c'est un signe. Elle rêve qu'elle est dans un magasin de fromage. La sonnerie du téléphone la réveille au moment où elle mange une part de camembert. Elle admire le dessin du nez et des lèvres de Françoise. Elle disait « Rien ne va, je vais avoir un accident, je ne vais pas tenir. » Elle disait « J'ai l'impression que ce n'est pas moi, c'est la première fois que ça m'arrive. » Elle disait « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça ? » Elle disait, c'est de confiance dont j'ai besoin par-dessus tout. Elle disait, je n'ai rien, je ne suis rien, je suis obsédé par le temps qui passe. Nous sommes déjà au mois de juillet, la moitié de l'année.
Première incursion d'Alain Cavalier dans l'autobiographie, premières expériences du cinéaste en commentaire synchrone aussi, toute petite équipe, Jean-François Robin à la caméra, Alain Lachassagne au son et Xavier Saint-Macary en producteur, c'est-à-dire chargé de déposer un plateau repas devant la porte de l'appartement où se tourne ce répondeur ne prend pas de message. Film très très étrange, très étonnant de 1979, tournée montée, c'est ce que va raconter Cavalier en 7 jours dans cet appartement, c'est-à-dire qu'on fait une prise et on fait tourner les plans les uns après les autres, Charlotte Garçon.
Oui, vous parliez d'un projet qu'Alain Cavalier avait avec sa femme, de tourner un couple quasiment dans sa vie la plus intime, y compris physique.
Voilà, qui aurait dû s'appeler cette journée d'octobre 62.
Voilà, dans un appartement. Et en fait, de film dans un appartement, ça va être un film tombeau quasiment. Enfin, un traitement du décor très très particulier, puisque la négation du titre fait signe vers une sorte de... comment dire, à la fois d'apparition du cinéaste devant la caméra, et en même temps, il apparaît d'une très étrange manière, parce qu'il va se masquer un peu comme l'homme invisible, et il va au fur et à mesure
Il faut décrire, il a le visage entouré de bandes velpo.
Voilà, comme si, avec cette espèce de réciprocité entre ne pas voir, ne pas être vu, et en même temps montrer cet effacement de soi, c'est un film très noir. Le décor lui-même, les fenêtres, il va les obscurcir au fur et à mesure, donc on a l'impression que voilà, il s'emmure parce qu'il est dans un état de deuil. Mais en même temps, il fait un film à partir de cela. C'est-à-dire que c'est pas juste un constat ou un enregistrement d'un état psychologique. Toujours comme toujours chez lui, il y a une nouvelle forme qui s'invente, y compris dans la souffrance la plus sombre.
Mais c'est très littéralement un fondu au noir. Et c'est une des figures les plus importantes, sans doute, du cinéma d'Alain Cavalier. Et donc, il va peindre non seulement l'appartement, mais les fenêtres au fur et à mesure. Le film se termine dans le noir, mais il va y avoir une renaissance par la lumière en brûlant des chaises. Citation, certainement, à l'écran de son obsession pour Bernard Palissy, le céramiste fou. Mais cette notion du fondu au noir, Natacha Thierry.
Oui, en fait, c'est un film absolument expérimental, radical et expérimental, puisque c'est un fondu au noir à l'échelle du film, un fondu au noir progressif à l'échelle du film, puisqu'il obscurcit en effet toute surface de son appartement, jusqu'à in extremis, cette sorte de lueur au sens propre et figuré qu'il fait surgir à l'écran. Mais c'est en effet un film très sombre, très âpre, très vertigineux, dans lequel on le sent pris dans une sorte d'urgence et de besoin de sauver, comme il l'a pu le formuler lui-même, sa peau, littéralement, par le cinéma.
En ne la montrant pas encore. Hein. Et tout le processus du dévoilement du
voilà,
visage de Cavalier est passionnant à suivre quand on revoit tous ses films.
C'est ça, il est à la fois, il s'expose tout en se masquant. Ce qui est une forme de pudeur, puisque probablement que le fait de ne pas montrer son visage, c'est aussi pour ne pas effrayer, pour ne pas montrer sa douleur, pour la montrer de manière latérale en tout cas, par ses gestes, par ses mains, par ce qu'il fait, et non par son visage. Donc il s'agit aussi de protéger l'autre, tout en se mettant en péril. Et ce qui est très beau aussi, je trouve, c'est par rapport à l'extrait que nous avons entendu, à ce moment-là, il dit encore « elle », mais il y a aussi des moments où il s'approprie sa voix, où il incorpore presque Irène, en disant « je », en lisant des mots d'Irène. Et c'est toute son intranquillité à elle, c'est toute sa fragilité, son mal de vivre à elle qui est traduit, qui sont traduits dans ces extraits, dans ces moments où il parle à travers elle, où il est un peu son ventriloque. Et donc, on comprend aussi que Irène était une personne qui pouvait éventuellement l'aspirer vers quelque chose de très sombre et que, en faisant le deuil de cette personne qu'il aimait, eh bien, il revient lui aussi vers la vie.
Parlez.
Ma mère, je vous demande la permission de garder le mouchoir de mon père.
Oui, si vous n'avez rien d'autre de votre famille.
J'ai déjà un plumier.
Vous rendrez le mouchoir au prochain parloir.
Bien, ma mère.
Vous voulez me dire quelque chose ?
Non, ma mère. Je voulais vous dire, j'ai fait un rêve. Hein. Vous donniez à chacune de nous un cadeau. Mon tour arrivait, il n'y avait plus rien.
Alors ?
J'ai honte. Enfin, j'ai pas honte, j'ose pas.
Soyez pas négligée, faites les négations. Dites, je n'ai pas honte, je n'ose pas.
Mon tour arrivait, il n'y avait plus rien. Vos mains étaient vides. Vous m'avez souri. Vous m'avez dit, je vous donne mon cœur. Un cadeau pareil, c'est une aubaine. Je veux devenir une sainte, ma mère.
Orgueil.
Oh non. Je veux devenir une grande sainte en cachette. Personne n'en saura rien, sauf lui. Je n'aurai aucun mérite, ma mère.
candeur, gaieté, orgueilleuse humilité. C'est la voix merveilleuse de Catherine Mouchet dans Thérèse. Thérèse, si César, un succès critique et public tout à fait inattendu. J'ai regardé, il a fait presque 1,5 million d'entrées à l'époque pour l'évocation des plus dépouillés, sans aucune concession à la facilité de la très courte vie de Thérèse Martin au Carmel. Alain Cavalier, sous la plume d'André Mestivier, un de ses pseudonymes, écrit « Thérèse est un succès en France et dans de nombreux pays. C'est inattendu, c'est touchant, c'est un peu encombrant, comme le cinéaste le précise. Il préfère l'ombre, étrange pour un homme de spectacle qu'il prétend être. » Et pourtant, c'est un homme de spectacle, Charlotte Garçon. C'est-à-dire que sous l'austérité apparente de ce décor nu, ces fonds gris et vivants, vibrants, sur lesquels se détachent les visages, il y a un bonheur cinématographique à voir ça.
Oui, parce que faire le choix, par exemple, de cette neutralisation des fonds, qui vient aussi de la peinture, enfin, dont il a l'idée, et en voyant certains peintres, parce qu'il a aussi
Manet en particulier.
Voilà, il a aussi réalisé quand même plus tard des courts-métrages sur des peintres qui sont importants dans son œuvre, même s'ils ne sont pas de longs métrages, sur Bonnard, notamment sur Georges de la Tour. Donc ce travail sur la neutralisation des fonds, évidemment, c'est aussi une mise en spectacle. Ce sont des réflexions de metteur en scène de cinéma, et donc je crois qu'il assume pleinement la dimension spectaculaire. Et quand on entend la petite Thérèse qui dit « Je veux devenir une sainte en cachette » et qu'il est question d'orgueil, il me semble qu'il réfléchit aussi, bien sûr, lui-même à cette tension au sein de son cinéma, entre une modestie, une humilité, aller vers la petite chose, le détail, et le fait que malgré tout cela, et c'est quand même une démiurgie, hein, on crée un monde à chaque fois en faisant un film. Donc,
et on le fait par un gros plan qu'on a presque entendu ici, parce que sonorement il y a du gros plan. Alors il dira de manière toujours un peu ironique, notre ami Alain Cavalier, que c'est parce qu'il est myope qu'il aime autant le gros plan, mais c'est encore la question du visage. Et ça le renvoie à quelque chose de l'enfance, Natacha Thierry.
Oui, au sens où, effectivement, il a contracté le virus de la cinéphilie, de l'amour des images animées, par des visages en gros plan, en tout cas démesurés sur des écrans de cinéma, des visages de femmes. Cela dit, je pense que sa myopie n'est pas qu'une boutade quand il en parle. Et ça a été d'ailleurs une très grande angoisse pour lui de perdre la vue comme son père. Donc être myope, c'est aussi devoir approcher de près les choses pour les voir mieux et donc les isoler du décor. Et dans Thérèse, il s'agit de mettre en relief davantage, comme le faisait Georges de la Tour, les visages bien sûr, mais aussi les objets, les mains. Et il y a aussi des situations où les gros plans permettent paradoxalement de gagner davantage de pudeur par l'abstraction. Par exemple, dans La Rencontre, qui procède beaucoup par très gros plans, notamment des fragments du corps de Françoise, sa compagne, eh bien, dans La Rencontre, cette proximité très très forte rend illisible en quelque sorte l'image et donc permet de ne pas voir ce que pourtant on est en train de montrer.
Alors ce qu'on observe des Thérèse, et en particulier avec ses gros plans, c'est l'attention d'Alain Cavalier aux gestes. Il y a une série de films documentaires, oui, qui est directement issu, Charlotte Garçon, de ce tournage de Thérèse. Ce sont les portraits, alors c'est pas encore les portraits XL, hein, c'est les portraits tout simplement, 24 portraits d'artisanes au travail. Et pourquoi elles sont 24? Parce qu'elles sont 24 comme les Carmélites de Lisieux.
Oui, d'ailleurs, je crois qu'il avait pris comme figurante, on pourrait dire, pour Thérèse, ces femmes artisanes qui travaillaient près des studios. Et c'est ça qui lui a donné l'idée ensuite d'aller filmer des femmes souvent âgées, d'ailleurs, qui pratiquent un métier qui est plus ou moins en train de disparaître. Alors, pas toutes, mais la matelassière.
Et ses mains déformées.
Voilà, l'orangère, même la dame lavabo, la dame pipi. Voilà, des métiers qui sont, alors pas forcément des métiers de fabrication, mais avec un savoir-faire très fort, mais en même temps, cette idée que ces femmes au travail, on va comprendre au fur et à mesure, dans la façon dont ils les filment, d'abord que leur visage, j'allais dire, se mérite pour le spectateur, c'est-à-dire qu'on part plutôt de leurs gestes, de leurs mains, et puis il y a un petit temps avant qu'on découvre quelle tête elles ont, et ce suspense, il est délibéré. Et puis, d'autre part, ces femmes au travail, on comprend que Cavalier cherche quelque chose de son propre travail de cinéaste. Donc le cinéma est effectivement pour lui quelque chose qui se fait avec les mains, vraiment un artisanat. Donc toutes tous ces petits portraits qui durent 13 minutes, dit-il, parce qu'on lui a fait choisir entre 13 et je crois 52 minutes, puisque c'était tourné pour la télévision. Et il a dit « je préfère 13, comme ça je ne serai pas interrompu par la publicité ». Donc vous voyez, à chaque fois, le trivial et puis quelque chose qui serait d'une recherche beaucoup plus artistique sont là. C'est des portraits magnifiques, vraiment, de femmes. Pas seulement d'ailleurs des femmes qui font, qui construisent quelque chose, parfois c'est un petit peu latéral. L'illusionniste, c'est une femme qui est une prestidigitatrice, qui explique, qui raconte sa vie, parce que le geste est quand même une ouverture au récit de vie. Je trouve qu'il y a toute une construction du récit de vie, y compris très intime et très poignant, hein, à la limite du pathos, qui se développe à partir du geste de travail.
Premier jour de tournage, je suis très fatigué. Je tourne seul, sans équipe, et je crois que c'est une connerie. Et puis Joël, il est très gros, j'y arriverai jamais jusqu'au cœur, à l'intérieur de lui. Ça va un peu mieux ce matin, je pars au travail. Je pense à ce que m'a dit mon médecin quand je lui ai expliqué que je voulais faire un film sur un homme gros qui veut perdre beaucoup de poids pour reséduire sa dame et renaître. Il m'a dit « touchez pas à ça, c'est dangereux, évitez ». Il fait froid, il fait ensoleillé ce matin. Joël vient me chercher. Il est courageux, il tient le coup. Il s'était engagé vis-à-vis du film à perdre beaucoup de poids. On est à 3 mois, il a perdu près de 20 kilos. Il espère aller jusqu'à 40. S'il va jusqu'à 30, c'est bien. C'est bien pour le film. C'est bien pour lui aussi, surtout. C'est mon 3e film, fabriqué seul, entièrement seul. Et je dois dire que je ne peux pas filmer plus de 3 heures par jour. Après, je suis cuit.
C'est le film 10 ans de journal intime d'Alain Cavalier, filmé en vidéo, sans équipe, hein, comme il l'a dit, restitué en bribes. Alors pourquoi est-ce qu'il est cuit, Alain Cavalier, comme il le dit, je ne peux pas filmer plus de 3 heures par jour, parce qu'après je suis cuit. Mais il est cuit parce que prononcer des paroles en même temps qu'on filme, c'est pas si évident que ça. Et il va expliquer, il va revenir souvent sur la tension physique que ça lui impose, Natacha Thierry.
Oui, absolument. C'est vrai que c'est un effort, c'est une tension physique. Cavalier est quand même quelqu'un qui a un investissement, un engagement physique très très fort et de plus en plus à mesure que l'outil évolue. C'est son 3e film, en effet, ouvertement autobiographique. L'outil devient de plus en plus maniable et alors que dans La Rencontre, les plans étaient essentiellement tournés sur pied, eh bien ensuite il a la caméra à la main, la caméra vidéo à la main. Et
à l'œil même, parce oui. qu'il filme avec l'œil dans le viseur. Il y a des cinéastes qui filment en tenant la main, la paluche, là, comme on disait, en regardant dans la lucarne, dans le petit écran. Lui, il faut regarder par le viseur, quitte à se casser la figure parce qu'il a fermé l'œil, comme il le montrera après dans Irène, par exemple.
C'est ça. Donc effectivement, la caméra devient une espèce d'extension de son propre corps. Il a souligné plusieurs fois à quel point parler et filmer en même temps, c'est quelque chose d'assez complexe, d'assez périlleux, puisque parfois le plan peut être raté parce que la voix qui vient dessus ne, ne, n'est pas vivante, ou inversement. Donc il y a vraiment cette tension chez lui, cette tension, cette pulsion aussi, la pulsion scopique très très forte, ce qu'il a pu appeler même une avidité, hein, ce besoin d'être sans cesse prêt et disponible à ce que la réalité de la vie quotidienne peut éventuellement offrir. Et d'ailleurs, il essaie depuis quelques années de calmer cette avidité. Il se force parfois à ne pas emmener avec lui sa caméra pour se distancier un peu. Mais c'est vrai qu'il y a ce besoin de filmer, cette urgence, cet appétit très très puissant. Et ce qui est très beau aussi dans le filmeur, c'est cette traversée de 10 années qui permet de voir à la fois le passage du temps sur les corps, sur les visages, mais aussi dans l'outil justement, et dans l'évolution de l'outil et de sa façon de l'utiliser. À l'œil, à la main parfois, et il lui arrive beaucoup plus aussi de se montrer directement, de se filmer lui-même.
C'est la grande question, parce que ce qui est très troublant dans ces films autobiographiques et qui deviennent des autoportraits chez Cavalier, c'est qu'on pourrait dire il se referme sur lui-même, il fait un cinéma pour lui, avec lui et en lui, et c'est tout le contraire. C'est-à-dire que chez Cavalier, le fait de s'afficher à l'écran est une démarche qui consiste à faire rentrer le spectateur avec lui. C'est très curieux.
Oui, je le crois, effectivement. C'est une invitation. Alors, c'est un processus assez complexe et assez long dans son parcours, mais effectivement, il s'agit de plus en plus d'assumer la subjectivité de son regard, d'assumer que c'est lui qui filme. Et le terme filmeur, c'est ça aussi, c'est dire c'est moi qui filme, et en même temps et je filme tout le temps, et potentiellement tout le temps, mais c'est aussi dire voilà, par honnêteté, par loyauté, je m'expose. Il a pu dire par exemple à propos de Pater qu'à un moment donné il fallait qu'il y passe cinématographiquement parlant, c'est-à-dire y passer, ça voulait dire à mon tour me montrer, me dévoiler, montrer mon visage. Et puis c'est aussi ce processus-là est bien sûr lié à l'outil, c'est-à-dire qu'à mesure que il peut s'approprier davantage l'outil et être de plus en plus seul, il peut aussi être dans une introspection. Mais l'introspection lui permet de mieux aller vers l'autre, de mieux regarder l'autre. En effet, ça c'est évident. Regarder l'autre et aussi l'inviter à son tour dans l'image, jusqu'à le cas échéant, l'inviter à devenir cinéaste à son tour.
Oui, je crois qu'il faut que je lâche la caméra. Chargeur de la caméra. Cassette, au cas où on pourrait filmer quelque chose. Le film au travail. Petit carnet noir du roman de mon film. Va-t-il aboutir ou va-t-il imploser? 3 jours là, sans sortir, ne pas te débiner, hein? Sans peur. Un lac, un petit lac des Vosges, retourne mer. Nous décidons de le traverser à la nage. Au milieu, j'ai une crampe à la jambe droite. J'aurais été seul, je serais mort. Elle me tire. Elle était vigoureuse jusqu'à la rive. Ma vie future pour quelques années était fixée. C'est Irène qui rôde, c'est elle. Autour de la maison, le soir. Elle est là. Elle vient me demander quelque chose. Un film entier sur une disparue, sur... Puis je me dis, c'est uniquement l'existence de ces carnets qui me pousse à faire un film. Mais à mon avis, il y a autre chose qui m'attire. vers elle, à aller vers elle.
C'est Irène, on l'a entendu, le film d'Alain Cavalier en 2009. On pourrait faire toute une émission sur Alain Cavalier et la mort, Charlotte Garçon. Dans Irène, il est question d'une mort, d'une disparue. Il va filmer sa mère morte comme il avait filmé son père mort dans Le Filmeur. Et il va se poser des questions de figuration absolument passionnante et presque miraculeuse. Enfin, il y a un côté thaumaturge chez Cavalier. Quand on sort d'Irène, on a l'impression d'avoir vu.
Oui, c'est très fort de substituer au corps de l'épouse morte, donc il y a déjà plusieurs décennies quand il tourne Irène, celui de la mère en ouverture. Nous, spectateurs, on est saisis, on est sidérés de voir ce corps, ce cadavre très âgé, et on comprend donc que c'est la mère du cinéaste qui va aussi, d'ailleurs, la mère clore Irène. Donc il y a quelque chose de très complexe qui se met en place sur cette représentation de la morte qui est très différé dans Irène, puisqu'il parle d'elle, c'est un film de fantôme, enfin on a l'impression qu'il le fait parce qu'elle se manifeste, elle se manifeste à travers ses carnets à lui, il tenait un journal intime au moment où elle est morte, et en fait il soustrait l'image d'Irène au spectateur. Aussi parce que Irène était une actrice mannequin, et on comprend qu'elle a eu une image publique très jeune, elle a été Miss France, et donc effectivement voir quelqu'un qui est très beau, par exemple, qui a une très grande photogénie, ça nous prédispose en tant que spectateur d'une certaine manière, et à mon avis, Alain Cavalier ne veut pas qu'on approche Irène de cette manière extérieure. Il préfère qu'on la construise dans notre tête par la médiation du souvenir, et aussi, y compris par la médiation du plus trivial et du plus quotidien dans le présent, à savoir cette scène absolument géniale, à la fois drôle et terrible, enfin, et fantomatique, où il est dans un hôtel, je crois, la couette est disposée sur le lit d'une certaine façon, et où il reconnaît exactement une posture favorite d'Irène. Mais on y croit, c'est-à-dire qu'on voit presque quelqu'un qui prend vie. C'est étonnant, une couette, voilà.
Natacha Thierry, la question de l'image limite chez Cavalier, il va toujours se la poser. Il y a un documentaire sur lui tout à fait passionnant de Jean-Pierre Limousin pour la collection Cinéma de notre temps, qui s'appelle Alain Cavalier, 7 chapitres, 5 jours, 2 pièces cuisine. Et Alain Cavalier va lui montrer ses albums de photographies où il y a des images de mort, et expliquant que c'est la limite du cinéma. Et on a l'impression qu'il va de film en film, peut-être parce que c'est un cinéaste qui s'est engagé dans cette voie à un certain âge, c'est-à-dire qu'il a 50, 60 ans quand il commence à se poser ces questions et aller vers ce cinéma. Et comment filmer ça, effectivement? Comment représenter ça?
Oui, d'autant que c'est quelqu'un qui est absolument hanté, pas seulement par des fantômes comme Irène, pour rebondir sur ce que disait Charlotte, des fantômes de personnes qu'il a connues, mais aussi des fantômes de... Enfin, toute cette cohorte des morts des guerres, notamment la Seconde Guerre mondiale, c'est quelque chose qui continue aujourd'hui encore de le hanter, de traverser sa réflexion, et pour laquelle il cherche des solutions cinématographiques, des réponses. Et il a en effet collectionné depuis très jeune, vraisemblablement depuis la guerre, donc depuis la Seconde Guerre mondiale, là j'entends, il a collectionné des images de souffrance, des images frappantes de personnes torturées, fusillées, ou simplement des visages butés de résistants, de personnes qui défient l'autorité. Et c'est aussi quelqu'un qui défie l'autorité, Cavalier, profondément. Et son parcours d'affranchissement de filmeur, c'est aussi le parcours de quelqu'un pour qui le cinéma est une force de négation. C'est aussi cette réponse-là qu'il donne à tout ce qui est de l'ordre du normatif, de l'autorité, de la contrainte. Et donc ces personnes qui ont été suppliciées ou violentées d'une manière ou d'une autre traversent absolument tout son cinéma. De même, il a fait un film qui s'appelle « Faire la mort », où évidemment le jeu de mots n'est pas tout à fait là par hasard. Dans « Faire la mort », il explique que dans ses premières fictions, par exemple, eh bien, il a fait mourir des Trintignants et tant d'autres. Et il dit « je », c'est très étrange, il dit « j'ai tué ». j'ai tué 23 personnes, etc. De même qu'il peut dire, j'ai été occupé pendant la guerre. Il ne dit pas, la France a été occupée. Comme disent les historiens, il dit, j'ai été occupé. Donc il y a vraiment quelque chose de très intime qui s'est noué dans son enfance et sa jeunesse. Et à quoi il cherche à répondre ensuite tout au long de son parcours de cinéaste. Et en effet, le cinéma n'a pas à imiter ces souffrances-là. Il ne peut les approcher que de manière latérale par la suite. Et donc, il s'agit ensuite de trouver des substituts.
Merci Natacha Thierry, on se quitte sur cette belle fête triste composée par Georges Delerue, c'était pour l'insoumis d'Alain Cavalli en 1964. En attendant que soit fini votre livre sur le filmeur, on lira avec profit votre texte, fragment d'un autoportrait Cavalier au miroir, publié dans le numéro spécial Alain Cavalier de la revue Images Documentaires d'octobre dernier, où figure également l'étude très précise de Charlotte Garçon sur les portraits, sur le métier, 24 portraits par seconde. Immanquable également la monographie qu'Amanda Robles a consacré à Alain Cavalier, filmeur, c'est chez de l'incidence éditeur. Mais le mieux reste évidemment de voir, revoir et re-revoir ses films. Ils sont tous disponibles en DVD, et en particulier le très beau coffret de son intégrale autobiographique chez Pyramide, avec toujours de précieux petits films inédits réalisés spécialement pour leur édition. Son dernier film, Les 6 portraits XL, sont toujours en salle depuis leur sortie en octobre dernier. En attendant leur édition en DVD, ce sera le 5 mars. Et puis, surtout, si vous êtes à Paris, si vous y passez d'ici le 9 mars, ne ratez pas la rétrospective croisée des autoportraits d'Alain Cavalier et du cinéaste américain Ross McElwee. Il y a de fortes chances que vous croisiez l'un ou l'autre venu présenter leur film. Et vous pourrez même rencontrer Natacha Thierry. Ce sera le 18 janvier où elle viendra présenter Les Braves. Et puis, si vous voulez voir l'exercice d'admiration de Vincent Dieutre, frère Alain, c'est en DVD avec 4 autres chez la 8 édition. Et puis, puisqu'on parle de grands cinéastes du réel, je voulais rendre ici brièvement hommage à la documentariste libanaise Jocelyne Saab, qui nous a quittés très prématurément lundi dernier. Du Liban, Jocelyne Saab a documenté les meurtrissures, les terribles plaies, les divisions, les apories, la poésie et la formidable énergie toujours renaissante, écrit Nicole Brenez dans un très bel hommage publié par la Cinémathèque française. On peut, poursuit Nicole Brenez, comparer cette entreprise au long cours qui rend compte à la fois des événements, des réalités collectives et des sentiments les plus complexes, au travail que Johan Van der Kuyken avait accompli sur Amsterdam, ou à celui que conduit désormais Wang Bing sur la Chine. Jocelyne Saab venait de publier, avant les fêtes, son premier et très bel album de photographie, Zone de guerre, aux éditions de l'Œil, grâce à l'aide de quelqu'un qui s'est beaucoup servi de ses images, Jean-Luc Godard. J'ai eu la chance de travailler aux côtés de Jocelyne Saab dans mes jeunes années. Eh bien, elle m'a beaucoup appris. Merci Jocelyne et salut. Et maintenant, sans transition, c'est l'heure pour Charlotte Garçon de dégainer son chapeau à plumes, son mousquet, sa rapière et son fleuret.
Accueillez, comme vous accueilleriez vos 20 ans s'ils revenaient, mes mousquetaires, belles dames, sbires, cavaliers, traîtres, tout. C'est toute votre jeunesse qui passe. Et vous, enfants et jeunes gens nés dans de tristes heures, et pour qui, nous l'espérons, la vie moderne, chaude et dure, sera bienfaisante, prenez vite un dernier contact avec des époques disparues et des traditions qui s'effacent. C'est à travers terre que dans le monde entier, des millions d'hommes aiment et vénèrent la France. C'est vous dire avec quelle émotion, et disons-le, quel trac, je vous annonce pour bientôt sur cet écran l'apparition du film que j'ai tiré de l'œuvre d'Alexandre Dumas père, Les Trois Mousquetaires.
Les amis, nous partons pour une rude équipée.
Hein? Je voudrais bien savoir ce que nous allons faire. Je vais porter une lettre à Buckingham. Cette lettre est là. Si je suis tué ou blessé, l'un de vous la prend. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'elle arrive. Prêt ?
Tiens.
Avant de partir, amis, tirons nos épées et jurons d'être unis par une confiance aveugle, par un dévouement à toute épreuve. Et voici notre devise. Tous pour un, un pour tous.
Tous pour un, un pour tous.
Il en est des réalisateurs comme des films, il arrive qu'on les oublie complètement, qu'ils disparaissent, mais ils finissent toujours, heureusement, par réapparaître. Qui se souvient aujourd'hui d'Henri Diamant-Berger, qu'on vient d'entendre présenter la ressortie de ses Trois Mousquetaires de 1932? Eh bien pourtant, Henri Diamant-Berger, il fut un des réalisateurs producteurs les plus actifs de son époque, une époque qui va de 1915 à 1972, 108 films tournés, dont une légendaire première version des Trois Mousquetaires en 1921. Et c'était une super production diffusée à l'époque dans les salles, en épisode sur 14 semaines, Charlotte Garçon.
Oui, Antoine, le petit-fils d'Henri Diamant-Berger, prénommé Jérôme et lui-même producteur, fait paraître en coffret chez Blackout à la fois un ensemble de films muets et un documentaire sur son grand-père et surtout les mémoires de celui-ci qui ont été écrits dans les années 60. Le cinéma, quelle aventure, c'est le titre du livre. Livre qui commence exactement au même endroit que les mémoires de Jean Renoir au magasin, grand magasin du Fayel, boulevard Barbès à Paris, où comme Renoir, le petit Henri use ses culottes courtes devant cette nouveauté, utilisée un petit peu comme une garderie à l'époque, qui était le cinématographe. Donc à partir de ce moment-là, la vie de celui qui va être exactement contemporain de la création du cinéma va se confondre avec justement les origines du cinéma, c'est-à-dire la double origine. D'abord origine foraine, puisque tout petit garçon, il va rencontrer Buffalo Bill, qui est venu à Paris avec son cirque et rodéo. Buffalo Bill, héros des premiers films sur le Far West aux États-Unis. Donc voilà, origine foraine, il vient au Champ de Mars. Et puis comme son père est médecin, il va soigner Buffalo Bill Henri le rencontre. Et puis, origine aussi théâtrale, puisque tout jeune, il se passionne absolument. Il a une frénésie, comme il l'écrit, pour le théâtre. Il va aller rencontrer Sarah Bernard. Et surtout, il va animer des troupes de théâtre amateur. À 17 ans, il va monter 23 spectacles sur la durée de 2 ans. Et il va notamment faire débuter René Falconetti, la future Jeanne d'Arc de Dreyer. Donc précocité et hyperactivité oblige, Henri Diamant-Berger va devenir le plus jeune réalisateur de cinéma du monde, de l'histoire, à 20 ans, en 1915, au studio de Saint-Maurice, où il débute avec un seul conseil, qui est celui du concierge des lieux, qui est que pour diriger un film, il faut, je cite, « savoir gueuler juste assez et au bon moment ». Alors ce qu'il y a d'excitant, évidemment, c'est que là, on sent dans ce texte qu'on est à un moment où tout est possible, hein, absolument tout. Il faut quand même dire que cette publication ne comporte pas d'appareil de notes, pas de mise en perspective historique, donc on peut dire qu'elle imprime la légende, hein, et voilà d'où son aspect à la fois jubilatoire et peut-être historiquement un tout petit peu excessif, parce qu'on a l'impression que Henri Diamant-Berger invente le cinéma à mesure qu'il le découvre, y compris quand il fait des bourdes, quand il se trompe. À ses débuts, par exemple, il fait une erreur de continuité, c'est-à-dire qu'il y a une actrice qui a une robe blanche et puis dans le plan immédiatement suivant, dans la scène suivante, a une robe noire. Il se dit mince, il va falloir que j'invente un intertitre le lendemain matin. Et à partir de ce moment-là, il va prendre l'habitude de demander à une secrétaire de toujours noter les changements de costume et de coiffure. Et là, hop, il vient d'inventer un métier, le métier de script girl. À la même époque, il édite la première revue de cinéma, Le Film. Et un jour, il voit qu'il y a un client, un annonceur, publie une publicité. C'est un vendeur de charbon pour les lampes à arc du cinéma. Et il voit ce slogan « Charbon photogénique ». Justement, il cherchait un adjectif pour caractériser une beauté qui serait particulièrement éclatante, mise en valeur à l'écran. Voilà, il a trouvé son mot, il invente le mot photogénie. Il prétend aussi avoir inventé rien moins que la bande-annonce, parce que ses films sur les Trois Mousquetaires mettaient du temps à être imprimés, tirés par pâté. Il agence un petit court-métrage de 10 minutes lancé dans les salles avant les actualités. Voilà, ça y est, il vient d'inventer la bande-annonce. Alors bon, ça fait quand même beaucoup pour un seul homme. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'Henri Diamant-Berger a eu du flair, et c'est vrai, ça, et qu'il a engagé le premier au cinéma, recommandé par son ami Mistinguette, qu'on voit aussi à l'écran, le tout jeune Maurice Chevalier, qui joue dans plusieurs des courts-métrages de ce coffret. Hein. C'est déjà le personnage hableur, enfin dragueur, et quand même assez tête à claque, qu'on va lui connaître dans les opérettes de Lubitsch, 5 à 10 ans plus tard, à Hollywood. Alors, ce sont des films muets, effectivement, mais on a l'impression d'entendre la gouaille franchouillarde de Chevalier tel qu'on le connaît dans ses rôles américains. Et puis surtout, en tant que producteur aussi, quand même, il va faire tourner pour la première fois René Clair, Paris qui dort, à la Tour Eiffel, et il va voir le premier film burlesque d'un inconnu qu'il fait rechercher, et cet inconnu va le prendre comme premier assistant, c'est rien moins que Robert Bresson. Vous voyez, il y a toujours absolument des surprises rocambolesques dans le livre. Comme il a une très longue carrière, il est parfois aussi le dernier à faire tourner les acteurs. Erich von Stroheim, par exemple, il va lui donner son dernier rôle dans un film que je n'ai pas vu, il n'est pas fourni ici. C'est un film au titre très joli, et apparemment le titre est meilleur que le film, qui s'appelle « La Madone des Sleeping ». Donc vous voyez, c'est vraiment toute une poésie. Ce qui est intéressant aussi dans ces mémoires, c'est que c'est une traversée du siècle. Hein. Je disais, la longévité apporte cela. Donc il y a une valeur vraiment d'histoire personnelle. Et notamment parce qu'Henri Diamant-Berger, étant juif, il raconte, plutôt vers la fin du livre, son exode via le Portugal, son exode aux États-Unis, que n'a que très peu raconté quelqu'un comme Renoir, qui lui aussi a suivi le même chemin. Henri Diamant-Berger a été spolié, on a gratté, les nazis ont gratté son nom des génériques de film. Enfin, vraiment, c'est assez poignant dans le film. Et puis, c'est aussi une traversée au sens géographique, puisque très tôt, au milieu des années 10, avant même la fin de la Première Guerre mondiale, il est allé faire un tour, mandaté par Pathé, aux États-Unis. Et là, qu'est-ce qu'on sait ? On s'aperçoit qu'en fait, à New York, qui est à l'époque le centre du cinéma, il y a non seulement des grands noms des studios, il y a des gens comme Griffith, et puis il y a aussi tout un, on pourrait dire, une colonie de Français qui sont là-bas, Louis Jouvet, Charles Dullin, des gens de théâtre, et on s'aperçoit que c'était vraiment un lieu très francophile avant la fin de la Première Guerre mondiale. Donc c'est toute une époque qui revit. Et enfin, qu'est-ce qu'il apprend aux États-Unis ? Je dirais qu'il apprend à un sens de l'entreprise et du commerce. Je pense qu'Henri Diamant-Berger, finalement, il est peut-être meilleur pour ça, c'est-à-dire que d'avoir pensé le cinéma comme une industrie et d'avoir emprunté aux Américains certaines stratégies, y compris d'achat de salles, comment tout cela est intégré entre la publicité et la production. Il va construire des studios, à la fois à Fort Lee dans le New Jersey, et ensuite, au début des années 20, à Billancourt. Donc vous voyez, c'est aussi un grand bâtisseur, et il va comprendre l'importance que la télévision va prendre aux États-Unis. Il va essayer de suggérer à Pathé de s'y introduire, de s'intéresser à ce nouveau médium, mais en vain. C'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup d'entreprises qu'il a essayé de monter qui ont échoué. Et savoir perdre, il me semble que c'est aussi cet homme plein d'appétit, moins pour l'art du cinéma que vraiment pour son industrie, c'est aussi ce qui rend ses mémoires très très passionnants. Si passionnants d'ailleurs qu'on va lui pardonner ses mots amers envers la nouvelle vague, à laquelle il a préféré Louis de Funès et Jean-Pierre Mocky.
En sortant du 30 et 40, je ne possédais plus un radis de l'héritage de ma tante. Un autre que moi se serait dit, pour même faire sauter la cervelle, me suicider d'un coup de couteau, empoisonner me fiche à l'eau, enfin des morts bien naturelles. Moi voulant finir en gaieté, je me suis tué à répéter. Dans la vie, faut pas s'en faire. Moi, je ne m'en fais pas. Ces petites misères seront passagères, tout ça s'arrangera.
Il faut un peu tendre l'oreille, l'enregistrement est d'époque. C'est bien Maurice Chevalier qui chante en 1921 son célèbre « Dans la vie, faut pas s'en faire ». Merci Charlotte Garçon. Le cinéma d'Henri Diamant-Berger, c'est en digibook chez Blackout. Le plan large, c'est fini pour aujourd'hui. À la prise de son, Ludovic Auger. L'émission a été préparée par Pascaline Bonnet et réalisée par Somani Na. La semaine prochaine, tiens, Maurice Chevalier, on risque encore de l'entendre, puisque plan large portera sur Billy Wilder, à qui la Cinémathèque française consacre ces temps-ci Une rétrospective, nous serons en compagnie de Julie Michaud, autrice de Billy Wilder et la musique d'écran filmée L'Invisible, et de Mathieu Macheret, Personne n'est parfait. D'ici là, vos programmes continuent sur France Culture. Dans un instant, Une vie, une œuvre, présentée par Christine Bernard.
Je n'ai pas un caractère à faire du tracas. Croyez-moi sur terre, faut jamais s'en faire. Moi je ne m'en fais pas.
Dans la vie faut pas s'en faire.
Dans la vie faut pas s'en faire.
Toi tu t'en fais pas.
Non, je ne m'en fais pas.
Toute ta petite misère,
non, passagère.
Tout ça s'arrangera.
Tout ça s'arrangera.
Tu n'as pas un caractère.
Je n'ai pas un caractère.
À faire du tracas.
À me faire du tracas.
Croyez-moi sur terre.
Faut jamais s'en faire.
Moi je ne m'en fais pas.
Non, je m'en fais pas. Je n'ai pas un caractère à faire du tracas. Croyez-moi sur terre, faut jamais s'en faire. Moi je ne m'en fais pas.